Le Réel, justement, dans le journal de Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La Russie accélère sa campagne de terreur en Ukraine. 17 morts à Kiev la nuit dernière, dont des enfants, dans une attaque aux missiles et aux drones. Les frappes ont aussi endommagé des bureaux de l'Union européenne dans la capitale ukrainienne. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni relancent le mécanisme de sanctions contre l'Iran. Les trois pays accusent Téhéran de ne pas respecter ses engagements sur son programme nucléaire. François Bayrou devant les patrons du MEDEF à 11 jours du vote de confiance à l'Assemblée. Le Premier ministre est persuadé que les Français commencent à prendre la mesure de l'enjeu budgétaire. Après ce journal à 18h15, nous vous proposons un nouveau rendez-vous consacré aux élections municipales. Maire, pourquoi faire pour bien comprendre le sens de l'engagement des élus. Avec ce soir le témoignage du maire des Mureaux dans les Yvelines, François Garré. La Russie a-t-elle vraiment l'intention de négocier la fin de son invasion de l'Ukraine? On peut en douter ce soir après le nouveau déluge de feu qui s'est abattu sur Kiev la nuit dernière. Une trentaine de missiles et 600 drones qui ont éventré des immeubles d'habitation dans la capitale ukrainienne. Il y a au moins 17 morts, dont 4 enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de préférer continuer à tuer plutôt que de négocier la paix. Le Kremlin répond qu'il ne vise que des cibles militaires. On retrouve à Kiev Bastien.
Attaque directe ou dommage collatéral. L'analyse des dégâts aujourd'hui dans ce quartier central de Kiev pointe plutôt vers la deuxième hypothèse, celle d'un effet de souffle après une frappe ayant visé près de là une grande centrale électrique. Les infrastructures énergétiques ont été en effet les proies de la nuit pour l'armée russe. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont toujours sans électricité. Affaiblir la résilience ukrainienne à l'approche de l'automne et de la saison froide relève de la méthode désormais assumée par la Russie. Mais cette fois, deux symboles de présence internationale ont été touchés, la mission de l'Union européenne et un centre culturel britannique. Vitres brisées, bureaux soufflés et pans de façades arrachés rappellent que dans cette guerre, la diplomatie n'est pas un sanctuaire. Un membre du personnel de sécurité de nuit a été blessé. Il est hospitalisé et les deux bâtiments sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Les réparations pourraient s'étendre sur plusieurs semaines.
Bastien Bory, correspondant à Kiev. Ces frappes russes de la nuit dernière ont effectivement endommagé le bâtiment de la mission de l'Union européenne dans la capitale ukrainienne. Une première inquiétante, alors que les Européens réaffirment régulièrement leur soutien à l'Ukraine. Ce soir, c'est la consternation à Bruxelles, Fabien Cazot.
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a été le premier ce matin à poster sur les réseaux sociaux une photo des bureaux endommagés prise depuis l'intérieur de la mission de l'Union européenne. On y voit des faux plafonds défoncés, des fenêtres et du matériel de bureau renversé. Aucune victime n'est à déplorer au sein de la mission, a tenu à rassurer la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, qui a apporté ce midi quelques précisions sur l'attaque russe.
Deux missiles sont tombés à moins de 50 mètres de la mission européenne en moins de 20 secondes. Cela vient nous rappeler, de manière brutale, quelle est la situation. Le Kremlin ne reculera devant rien pour terroriser l'Ukraine et même pour viser l'Union européenne. C'est pourquoi nous comptons maintenir une pression maximale sur la Russie.
Autant dire que l'Union européenne compte bien renforcer ses sanctions économiques contre la Russie. Un 19e paquet de sanctions est en cours d'élaboration. L'attaque de la nuit dernière est vue comme un symbole à Bruxelles. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, condamnant de son côté une attaque insensée et rappelant que le personnel de la mission européenne à Kiev porte la voix des 27 sur le terrain en Ukraine.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles. À Washington, la Maison-Blanche affirme ce soir que ces terribles frappes russes menace le plan de Donald Trump pour la paix en Ukraine. Le président américain qui avait reçu Vladimir Poutine en Alaska le 15 août dernier. Depuis ce sommet, les négociations sont au point mort et la Russie a même intensifié ses attaques sur l'Ukraine. Quant au chef de l'ONU, Antonio Guterres, il condamne aussi les dernières frappes russes sur Kiev tout en appelant à un cessez-le-feu. Les attaques contre les civils et les infrastructures civiles violent le droit international humanitaire. Elles sont inacceptables, écrit Antonio Guterres dans un communiqué. Trois pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, veulent à nouveau sanctionner l'Iran. Ils accusent le régime des Mollahs de ne pas respecter ses engagements sur son programme nucléaire. Ces trois pays, qui constituent le groupe E3, ont déclenché aujourd'hui le mécanisme qui permet de réimposer des sanctions de l'ONU suspendues il y a 10 ans. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
Ce mécanisme appelé snapback est réactivé après l'échec des dernières négociations avec Téhéran.
Oui, après pour parler de la dernière chance, mardi dernier. à Genève, les Européens ont estimé qu'il fallait désormais agir de toute urgence et donc décider de dégainer le snapback, cette clause de l'accord de Vienne de 2015 prévoyant la réinstauration automatique de sanctions contre l'Iran à l'ONU. L'accord de Vienne, qu'on appelle aussi le JCPOA, expire le 18 octobre prochain et un délai préalable de notification d'un mois du Conseil de sécurité est nécessaire pour rétablir les sanctions. Après cela, le dossier du nucléaire iranien sort de l'agenda onusien. C'était le seul levier à notre disposition, explique un diplomate français, sinon nous serions complètement sortis du jeu. Paris, Berlin, Londres considèrent que Téhéran est en contradiction avec ses engagements internationaux et donc l'activation de la clause du snapback, selon le diplomate précité, est légitime et légale. Pour autant, le déclenchement de cette mesure ne signe pas la fin de la diplomatie, estime Jean-Noël Barrot, le patron du Quai d'Orsay. À compter d'aujourd'hui, il reste 30 jours à l'Iran pour inverser le cours du processus diplomatique, si c'est encore possible. Nous sommes prêts à négocier nuit et jour, s'il le faut, nous explique un diplomate français. Mais pour cela, encore faudrait-il que Téhéran fasse un geste très significatif vis-à-vis de l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, et en particulier d'indiquer où se trouvent les 450 kilos d'uranium enrichi à 60% dont l'agence a perdu la trace.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. Et l'Iran dénonce ce soir la décision européenne de réactiver ce mécanisme de sanctions. Téhéran accuse la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni de compromettre gravement sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aux États-Unis, la purge s'accélère au sein du ministère de la Santé, dirigé par le vaccino-sceptique Robert Kennedy Jr. Après avoir limogé plusieurs experts réputés, le ministre a remercié hier la directrice de la principale agence sanitaire, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Suzanne Monarez avait pris ses fonctions il y a moins d'un mois, suffisamment longtemps pour contester les nouvelles orientations du ministère. Franck Mathevon nous appelle de Washington.
C'est par un message lapidaire sur X que le ministère américain de la Santé a annoncé hier le licenciement de Suzanne Monarez, avec une mention de courtoisie « Merci pour avoir servi avec dévouement le peuple américain ». En coulisses, l'atmosphère serait en fait détestable au sein des centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Monarez, experte réputée en maladies infectieuses, qui dirige l'agence depuis quelques semaines seulement, bataille avec le ministre Robert Kennedy Jr. Elle lutte contre la nouvelle politique vaccinale du neveu de JFK, qui va souvent à l'encontre du consensus scientifique. Cette semaine, par exemple, de nouvelles restrictions ont été annoncées pour la distribution du vaccin anti-Covid. Dans l'ensemble, les moyens pour la recherche sont réduits. Monarez a été poussée à la démission, mais elle a résisté, a refusé de licencier des agents. Elle a donc été mise à la porte. Un limogeage sans base légale, selon ses avocats, pour qui le ministère instrumentalise la santé publique à des fins politiques, en mettant en danger la vie de millions d'Américains. D'après la Maison-Blanche, l'agenda de Suzanne Monarez n'est tout simplement pas en accord avec le programme du président « Make America Healthy Again », une Amérique à nouveau en bonne santé.
Franck Mathevon, nouveau correspondant de France Culture aux États-Unis. La rentrée scolaire s'annonce tendue entre Elisabeth Borne et les syndicats d'enseignants. Le SNES-FSU, majoritaire dans les collèges et les lycées, rejette la réforme du contrôle continu du baccalauréat annoncée hier par la ministre de l'Éducation nationale. Réforme qui consiste à porter à 40% la part de ce contrôle continu dans les résultats du bac. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Le SNES-FSU dénonce un énième rafistolage du bac.
Oui, actuellement, pour le bac, les notes du contrôle continu tiennent compte de l'année de première et du premier et du deuxième trimestre de terminale. Une mesure issue de la réforme du bac instaurée par Jean-Michel Blanquer, qui a été également mise en place pour répondre aux attendus de Parcoursup, ce qui génère beaucoup de stress et d'angoisse chez les lycéens. C'est pourquoi Elisabeth Borne souhaite donc supprimer une partie des notes du contrôle continu en demandant aux chefs d'établissement et aux enseignants de choisir eux-mêmes les notes qu'ils compteront ou pas. Une mesure que dénonce Sophie Vénet, la secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du second degré, qui craint une démotivation des élèves.
On craint que dès lors que certaines évaluations auront un coefficient zéro, si les professeurs le choisissent, des élèves fassent des choix stratégiques et qu'ils ne viennent pas à ces évaluations. Donc ça fait partie de nos craintes, de la même manière que on craint retrouver là aussi certaines épreuves du baccalauréat qui avaient été mises en place en 2021, c'était les E3C. C'était des épreuves ponctuelles qui comptaient pour le baccalauréat, qui là aussi désorganisaient complètement l'année et la scolarité des élèves. Donc ça va avoir un impact pour les professeurs. C'est-à-dire que ça va contraindre le travail des professeurs, mais ça va aussi avoir un impact sur les élèves avec potentiellement des stratégies, des choix dans ce qu'ils vont faire.
Face à ce mécontentement, le syndicat avait également appelé les enseignants à contester cette mesure dans chaque établissement en leur demandant de refuser toute contrainte et de gagner, et là aussi, et de garder la main sur les évaluations. La ministre de l'Éducation leur a donné jusqu'aux vacances de la Toussaint pour plancher sur le projet avant de trancher définitivement.
Hakim Kasmi, merci. Le SNES-FSU qui a pris aussi position sur le mouvement Bloquons tout le 10 septembre prochain. Le syndicat appelle à des rassemblements ce jour-là, mais il ne déposera pas de préavis de grève. Un peu plus d'un mois après l'ouverture de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, l'établissement dédié aux plus gros narcotrafiquants de France a connu cette nuit son premier incident. Une petite dizaine de détenus sur 88 ont partiellement inondé l'un des bâtiments. Pas de gros dégâts, mais le signe margostive d'une tension qui commence à monter.
Oui, les surveillants se sont retrouvés cette nuit à écoper quelques centimètres d'eau dans les coursives du bâtiment 2. Inondation provoquée par les détenus qui ont laissé volontairement les robinets de leurs cellules ouverts. 5 ou 6 passeront dans les prochains jours en commission disciplinaire, annonce l'administration pénitentiaire. David Lacroix, délégué syndical FO, voit cet incident comme une provocation envers les agents.
C'est une situation qu'ils avaient concertée certainement dans la journée. Ils essayent de nous tester pour voir comment on réagit face à ces situations.
Des détenus dont la plupart dénoncent leurs conditions de détention très strictes. Une trentaine ont formé des recours ces derniers jours devant la justice, requêtes jugées irrecevables pour la plupart. Depuis quelques jours, David Lacroix sent donc monter une certaine tension dans les cellules.
Quand on passe d'un régime un peu plus cool à un régime vraiment strict et très réglementé, on se doutait que la lune de mai n'allait pas durer éternellement. Et donc forcément, là, ils commencent à se rendre compte que les vacances sont terminées.
Dans un communiqué, le syndicat UFA demande des sanctions disciplinaires fermes contre les responsables et des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. D'autant que plusieurs détenus prévoient d'entamer une grève de la faim à partir de lundi prochain.
Margostive, merci. À 11 jours maintenant de l'échéance du 8 septembre à l'Assemblée, François Bayrou poursuit sa tournée d'explications sur sa décision de solliciter la confiance des députés. Le Premier ministre en sursis était cet après-midi devant le MEDEF, réuni à Roland-Garros, la même où hier le président de l'organisation patronale, Patrick Martin, avait critiqué les dirigeants politiques incapables, selon lui, de dépasser leur rivalité sur les questions budgétaires. Marie Viennot, vous êtes à Roland-Garros. François Bayrou veut encore y croire. Devant les patrons, il s'est dit persuadé que tout peut bouger dans les 11 jours qui viennent.
C'est avec beaucoup de hauteur, comme en haut de l'Himalaya qui lui est cher, que le Premier ministre s'est adressé aux chefs d'entreprise et leurs cadres venus l'écouter sur le cours central. Le mot « entreprise », il ne l'a d'ailleurs prononcé qu'à la 22e minute de son discours.
Dans la conception qui est la mienne, et j'en suis sûr la nôtre, l'entreprise n'est pas responsable que de l'intérêt de l'entreprise. Elle est responsable de la cohésion du pays autour.
Manière de ne pas opposer les entreprises au reste du pays. Face au mur de la dette, nous sommes tous dans le même bateau, dit François Bayrou, et soit on avance ensemble, soit nous nous affrontons. Cette alternative, il l'a régulièrement déclinée, souvent avec un brin d'amertume. Alors qu'il n'en avait rien dit à la CFDT, le Premier ministre a reparlé de la suppression des 2 jours fériés, mais surtout pour s'étonner que le débat se concentre sur cette mesure, alors dit-il qu'elle ne représente que 4 milliards d'économies sur les 44 qu'il propose pour 2026. Tout est discutable, a-t-il redit, mais comme son ministre des Finances ce matin à la même tribune, il promet que, même si la justice est nécessaire, dans la répartition des efforts, l'outil de travail ne serait pas touché. À la sortie, Patrick Martin, le patron du MEDEF, affiche son satisfecit.
En tout cas, sous sa gouverne, rien ne serait fait qui puisse porter atteinte à la compétitivité et à la croissance.
Mais dans les couloirs de Roland-Garros, le discours du Premier ministre a beaucoup moins convaincu ce jeune observateur.
Je n'ai pas saisi son idée, notamment sur le plan économique. Oui, on parle de développer certaines filières, mais que des portes ouvertes en français.
Alain Morin est président d'une société dans le secteur de la santé. Il est, lui, resté sur sa faim.
Il a répliqué exactement ce qu'il nous a dit il y a 2 jours.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'adressait vraiment aux chefs d'entreprise ?
Oui, tout à fait. Il a eu le mérite de se déplacer. J'aurais préféré question-réponse, parce que là, j'ai rien appris. Rien appris. Absolument rien.
Voilà pour ce reportage de Marie Vienneau à la rencontre des entrepreneurs de France à Roland-Garros à Paris. François Bayrou qui recevra à partir de lundi prochain les chefs politiques à Matignon. Une semaine avant ce vote de confiance à l'Assemblée, la France insoumise n'ira pas, a fait savoir son coordinateur national Manuel Bompard qui refuse, je cite, de participer à une opération de sauvetage du Premier ministre. Les écologistes, eux, réservent leur réponse, même si leur chef Marine Tondelier ne voit pas bien l'intérêt de cette rencontre. En revanche, le Rassemblement national a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait l'invitation de François Bayrou. Un mot du temps demain, retour au calme près de la Méditerranée, alors que les averses orageuses seront nombreuses sur le reste du pays, d'abord à l'ouest le matin, puis à l'est en cours de journée. Les températures minimales iront de 10 à 15 degrés en général, jusqu'à 20 degrés sur le pourtour méditerranéen. L'après-midi, il fera de 18 à 23 degrés en général. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Ludovic Auger. Le temps d'un jingle, on parle des élections municipales.
France Culture, élections municipales 2026. Maire, pourquoi faire ?
Dans un peu plus de 6 mois, les 15 et 22 mars prochains, se tiendront donc ces prochaines élections municipales. Et d'ici là, France Culture vous proposera chaque semaine, le jeudi à 18h15, un rendez-vous thématique consacré à ce scrutin et aux différentes compétences exercées par les élus locaux. Maire, pourquoi faire ? Alors pour démarrer ce rendez-vous, il nous paraissait important de planter le décor. Il y a près de 35 000 communes en France, certaines comptent quelques dizaines ou centaines d'habitants, quand d'autres en abritent plusieurs centaines de milliers et même jusqu'à 2 millions pour la ville de Paris. À la tête de toutes ces communes, on trouve des équipes municipales dirigées par un maire élu tous les 6 ans. Nous aborderons la spécificité de ce scrutin dans quelques instants, mais d'abord nous allons tenter de dresser le portrait type d'un maire en France. 4 maires sur 5 sont des hommes, la plupart du temps âgés, la moitié d'entre eux sont des retraités et il est très rare qu'ils ne fassent qu'un seul mandat. C'est le cas de François Garret, maire d'hiver gauche des Mureaux dans les Yvelines, qu'a rencontré Adrien Toffolet.
Bonjour.
Enchanté, asseyez-vous.
François Garret nous accueille dans son bureau, plutôt petit pour le maire d'une commune de 32 000 habitants.
Volontairement, c'est un bureau que j'ai depuis 25 ans, qui n'a pas changé. Il est assez simple.
Une photographie aérienne de la ville collée au mur, un petit bureau et une table de réunion avec quelques chaises.
Et j'ai surtout quelque chose qui est important pour moi, c'est l'escargot.
Une petite statuette d'escargot en hauteur sur un meuble qui illustre bien, selon François Garret, le travail de premier édile.
Un escargot, c'est quelqu'un qui avance, qui ne recule jamais, qui contourne l'obstacle, mais il va justement là où il veut. Et puis surtout, on dit qu'il bave, mais non, il laisse sa trace. Et un maire doit laisser sa trace, c'est quelque chose qui est important.
Lui fait partie de ces maires qui se sont investis tôt dans leur ville, avant même d'occuper des fonctions municipales.
Moi, je suis né au Mureaux, déjà c'est un point important. J'ai fait toute ma scolarité au Mureaux, et à 18 ans, j'étais entraîneur provisionnaire d'un club de football. J'ai toujours été actif dans la ville, indépendamment de mes études universitaires et de mes activités professionnelles. Mais si vous voulez, à un moment donné, ça vient progressivement.
Adjoint au sport de la ville entre 1977 et 1995, puis une petite pause avant un retour en partie motivé par le décès de sa fille en 1999 à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture à quelques centaines de mètres de chez eux.
Bon, après on se dit qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on reste au bureau avec ma femme ? Est-ce que je pouvais partir ailleurs, etc. Est-ce que je peux apporter quelque chose à la société ? Et qu'est-ce que je peux apporter aussi à la ville par rapport à cela ?
François Garret devient maire des Mureaux en 2001, ville de la banlieue ouest de Paris. Paris qui concentre à la fois des problématiques de la campagne, entourée de terres agricoles, et les problématiques de la ville, avec une part importante de logements sociaux liés aux deux grandes activités industrielles locales, l'automobile avec l'usine Renault et l'aérospatiale avec Ariane Group.
Nous, au Mureaux, ce qu'on a vécu, on est passé à un moment donné d'une main-d'œuvre qui était une main-d'œuvre agricole qui venait travailler chez Renault. Après, on a eu beaucoup de communautés, que ce soit les communautés d'Afrique, que ce soit les communautés de l'ex-Yougoslavie, de l'Espagne. Et c'est vrai que nous, on est un melting pot de 80 communautés. Et donc, faut faire vivre tout le monde ensemble. Et aussi, on est multi-religion, quoi. Donc, c'est pas neutre. Donc, c'est comment on fait vivre aujourd'hui toutes ces personnes, se vivre ensemble, et comment on le travaille.
Réélu 3 fois par la suite, 2008, 2014, 2020, il a vu le rôle de maire, comme les relations avec les habitants, évoluer.
Avant, dans les villages un peu partout, il y avait le médecin. Il y avait un rôle social. Il y avait aussi éventuellement le religieux, soit le curé, etc., c'était important. Il y avait le maître d'école ou le directeur d'école, et il y avait le maire. Aujourd'hui, si vous regardez un peu, beaucoup de choses sont perdues. Et le maire reste un peu encore celui à qui on vient se confier. Alors on n'est pas un des pères de famille, mais on est la sagesse, le tiers de confiance. Là, en ce moment, j'anime une commission sur le football, sur l'éducation, la laïcité, la citoyenneté, la vigilance. Qu'est-ce qu'un arbitre ? Un arbitre, c'est un tiers de confiance dans lequel 22 personnes se remettent pour voir s'ils respectent ou pas le règlement. Qu'est-ce qu'un maire ? C'est celui qui est justement le tiers de confiance et qui est autorité.
Et c'est aussi celui qui a du temps pour s'investir. Comme de très nombreux maires, François Garret est retraité, une situation qui permet d'envisager sereinement une action sur le long terme.
La politique d'une commune, on sent quelque chose au bout de 10 ans. Et il y a toujours des projets qui peuvent venir. Souvent des projets longs. Quand on parle de la rénovation urbaine de 2005 avec Jean-Luc Berlot, on a mis plus de 15 ans.
Et il reste toujours beaucoup à faire. Alors après 4 mandats et à 76 ans, François Garret laisse encore planer le doute sur son ambition en vue des prochaines municipales.
Il faut faire attention parce que la politique peut être en addiction. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être à un moment donné capable de comprendre que c'est aussi bon que les générations nouvelles arrivent.
Quand sait-on qu'on doit arrêter selon vous ?
On le sait que le jour où on le dit.
Ce qui n'est pas votre cas.
Je ne vous dis pas, mais je dirai quelque chose.
Voilà pour ce reportage au Mureau d'Adrien Toffolet. Alors, ce scrutin municipal est un scrutin très particulier dont nous allons tenter de comprendre la spécificité et les subtilités avec le politologue Patrick Lehingre, professeur émérite à l'université de Picardie. Patrick Lehingre répond aux questions de Stéphane Robert.
Depuis quand est-ce qu'on organise des élections municipales en France ?
Ça s'étale entre 1831 et 1884. Donc 1831, les mairies ont la personnalité morale et donc on prévoit l'élection d'un conseil municipal, mais on a un suffrage qui est très très censitaire. Progressivement, on va élargir un peu le corps électoral et en 1884, donc c'est la grande loi fondatrice de la Troisième République sur les élections municipales, donc les conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct et le maire par les conseils municipaux.
Quel est le mode de scrutin municipal aujourd'hui et qu'est-ce que ça génère ?
Alors, si on travaille sur les villes de plus de 1000 habitants, on est sur un scrutin mixte, c'est-à-dire une part de scrutin majoritaire. La liste qui a obtenu plus de 50% au premier tour ou qui l'emporte au second tour obtient 50% des sièges et la proportionnelle se fait sur l'autre moitié restante. Alors, ce qui assure un minimum de représentation de l'opposition, mais ce qui assure également une majorité certaine pour ceux qui ont porté cette élection. Alors pour les petites communes, c'est un peu plus compliqué, hein, puisque jusqu'ici, hein, il y avait un mode de scrutin qui était très original, voire exotique, hein, puisque c'est un scrutin majoritaire, uninominal, on votait candidat par candidat, on pouvait panacher, on pouvait présenter des listes incomplètes, les candidats isolés pouvaient se présenter, hein, il y avait une vraie souveraineté de l'électeur. Bon, et tout ça a été très largement malmené, si j'ose dire, par une récente loi. Et donc, on s'achemine, hein, vers un scrutin majoritaire beaucoup plus classique.
Est-ce que ces élections favorisent la réélection des sortants ?
Vous savez, s'agissant des élections municipales, il faut toujours, toujours, toujours distinguer selon la population de la commune. Si on est dans des communes relativement importantes, on a une forte politisation, c'est plutôt les partis politiques, malgré leur déclin, qui façonnent les listes, et on a, de la part des électeurs, des critères de vote qui sont davantage des critères nationaux que des critères locaux. La mesure que vous descendez dans la taille des communes, c'est davantage des critères locaux, des critères personnels qui l'emportent. Et on peut dire que le taux de réélection est d'autant plus important que la taille de la commune est petite. Par contre, pour les communes plus importantes, notamment quand on est dans une logique d'élection intermédiaire, c'est-à-dire quand les électeurs des grandes communes, hein, utilisent leur bulletin de vote pour signifier leur mécontentement par rapport au gouvernement en place ou aux représentants locaux du gouvernement, bon, là on a des phénomènes d'instabilité qui peuvent être beaucoup plus importants.
Et justement, on voit bien souvent de nombreux candidats qui ne mettent pas forcément en avant leur couleur partisane. Pour quelles raisons ?
Précisément, hein, pour essayer d'éviter ce qu'on a appelé cette logique des élections intermédiaires. Donc cette forte politisation et le fait que le scrutin municipal est régi par des logiques partisanes nationales. C'est pour éviter cela, hein, pour garder l'image d'un maire un peu concordataire, que on s'efforce de dépolitiser les scrutins. En fait, tout dépend de la position que vous occupez. Quand vous êtes sortant, vous avez intérêt à dépolitiser le scrutin, à occulter les étiquettes partisanes. Et plus vous êtes dans une position, non pas de sortant, mais de prétendant, et plus la politisation du scrutin sera importante.
On voit que certains candidats à l'élection présidentielle font de ces municipales un test avant 2027. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on pourra tirer véritablement un enseignement national de ce scrutin?
Ça n'a jamais été prémonitoire. Le scrutin municipal n'a jamais été prémonitoire d'un scrutin national comme les présidentielles.
Est-ce que ce sont des élections qui intéressent les électeurs et qui votent?
Alors ça a été longtemps avec les scrutins présidentiels, le scrutin où la participation était la plus forte, hein, le scrutin où la participation était la plus faible étant le scrutin européen. Donc on avait comme ça une hiérarchie des scrutins en fonction du taux de participation. Bon, alors les tout derniers chiffres, évidemment, ne peuvent pas être pris en compte puisque les dernières élections municipales sont intervenues au moment de la pandémie. Donc on a eu un taux d'abstention record, mais dont on peut penser qu'il était assez exceptionnel. Reste qu'on est depuis 1977, les élections municipales 77, on est sur une tendance longue de baisse de la participation aux élections municipales comme aux autres élections. Et à l'intérieur du scrutin municipal, on s'aperçoit que la participation dans les petites communes baisse également et parfois baisse un peu plus que dans les communes plus importantes. Même s'il subsiste une hiérarchie très évidente, hein, c'est-à-dire que plus la commune est petite, plus le taux de participation est fort. Mais on a comme ça des mouvements hein, de baisse de la participation qui intéressent l'élection municipale comme les autres élections.
Le politologue Patrick Lehingue, maire Pourquoi faire, un rendez-vous hebdomadaire de France Culture tous les jeudis à 18h15 sur l'antenne, à retrouver aussi sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.